Oh, regarde la montagne là-bas. Tu trouves pas que le sommet est bizarre?
Ouais, maintenant que tu le dis, on dirait qu'il y a une construction dessus. Tu sais ce que c'est?
Franchement, non. Ça me dit rien du tout.
Sérieux? Je pensais que tu faisais exprès. C'est le fort du Mont-Bar.
Le fort du Mont quoi?
Du Mont-Bar. C'est une grosse construction militaire de la fin du 19e siècle. Il était super important pour défendre la région après la guerre de 1870.
Attends. Pourquoi ici? Il a été construit quand? Et par qui?
Alors là, doucement, je suis pas historien, mais ce qui serait cool, ce serait d'y aller pour de vrai. En plus, il y a une association qui s'en occupe, et ils pourront répondre à toutes tes questions.
Je suis hyper partant. C'est ouvert quand?
Je crois que c'est ouvert toute la semaine.
Alors on se donne rendez-vous samedi 10h, on se retrouve là-bas?
Ok, mais on se lance un défi, on y va à vélo. Je pourrais te mettre 150 mètres dans la vue comme ça.
Jamais de la vie, tu me doubles de la montée. On verra samedi, tu verras.
Rencard dans le pays de Montbéliard, à la découverte du fort du Mont-Bar.
Avoue, t'as calé sur les 50 derniers mètres, tu faisais moi le malin.
Ok, respect, mais regarde-moi cette vue, d'ici on voit tout, on a vraiment une vue imprenable. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont construit ce fort ici.
Je comprends pourquoi ils ont construit ce fort ici, mais du coup, pourquoi c'est plus un site militaire?
Ça, tu vas l'apprendre au fur et à mesure de ce qu'on va visiter sur ce site. Et je vais pas tout te spoiler avant le début quand même.
Ouais, t'es essoufflé. En fait, en plus de ça, tu sais même pas trop pourquoi et tout ça. Tu fais un peu trop le connaisseur là.
Bien sûr que si, mais comme tu m'as doublé dans la côte, j'ai pas envie de t'expliquer. Donc je fais durer le suspense.
Oh regarde Charlie, on dirait qu'il y a du monde là-bas.
Ah oui, allons voir ces messieurs. Ils vont peut-être pouvoir nous en dire plus sur ce magnifique site que tu ne connais pas. Allez, on y va.
Haha, très drôle. Oui, allons le voir. Et tu rigoles, mais je suis sûr que tu vas apprendre des choses aussi. Tu verras.
Bonjour, on aimerait s'adresser à des personnes qui connaissent le fort parce qu'on est intéressé par l'histoire du fort. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, bonjour. Oui, je suis Estelle Jolibois, donc je suis guide conférencière. Et je peux justement vous renseigner sur l'histoire de ce fort, du fort du Mont-Bar.
Pourquoi le fort il a été construit?
Alors, après 1870, en fait, on a eu une perte de l'Alsace et de la Lorraine. Donc, il a fallu se réorganiser. La France était face à une réorganisation justement défensive, parce qu'elles avaient peur, en fait, que l'Allemagne vienne à nouveau... combattre la France après 1870, pour reprendre justement Belfort, qui était juste à côté de la frontière.
Et donc ça veut dire que le fort date d'après 1870. Je ne pensais pas que ce fort était aussi récent, et par qui il a été construit?
Donc oui, il est récent, il a été construit juste après la guerre de 70, en 1874, et il a été construit en fait, c'est une ligne de défense qui a été construite par le général Serré de Rivière.
Et si je me souviens bien, les travaux ont été plutôt rapides, c'était urgent de le construire?
Alors oui, il a été rapide, il a duré trois ans de construction. En fait, c'est pas que ce soit rapide, mais c'est simplement que c'était un grand chantier. Les forces Serré de Rivière, en fait, le général Serré de Rivière, a voulu construire très rapidement une ligne de fort, de fortification, tout le long de la frontière est. Donc ça va de Dunkerque jusqu'à Menton. Et le fort du Mont-Bar en fait partie. Donc ça a commencé les travaux en 1873 pour toute cette fortification jusqu'en 1887. Et donc le fort du Mont-Bar aussi est inclus dans cette grande réalisation.
Et si on parle du fort du Mont-Bar, qu'est-ce qui le rend unique par rapport aux autres forts qu'on peut avoir dans la région?
Alors ce fort, il est unique non seulement par sa rue couverte. Donc quand vous arrivez, vous avez vu, hein, c'est assez spectaculaire. Enfin, vous avez une rue entièrement couverte.
Il parlait du général Serré de Rivière. Mais c'est qui exactement?
Après la défaite de 1870, la France est en panique. On a perdu des territoires, on se sent vulnérable. Du coup, on construit plein de forts le long des frontières. Serré de Rivière est un général qui, après la guerre de 1870, lance la construction de cette ligne de fortification qui s'étend de Belfort à Besançon.
D'accord. Comme une énorme muraille autour de cet axe, en fait. Et c'est ce chantier qui est appelé le plan de Serré de Rivière.
Exactement. Et ici, le fort du Mont-Bar fait partie de cette défense, aussi appelée le môle défensif du Lomont.
Donc si Belfort tombe, on pouvait ralentir la progression des troupes ennemies grâce à ces constructions comme le fort du Montbard ?
Exactement. Cette ligne protège la Franche-Comté et bloque la route entre Belfort et Besançon pour ralentir l'éventuelle progression des Allemands en cas de nouvelle guerre. Cette ligne empêche aussi les Allemands de rentrer dans les terres. En réalité, Céré de Rivière avait établi que Belfort, Verdun, Épinal et Toul seraient la première ligne de défense contre l'attaque. Mais au cas où cette ligne est conquise, alors les défenses du Laumont seraient un second rideau à conquérir.
Waouh, impressionnant tout ça. Et en tout, combien de forts ont été construits ?
4 forts en tout, le fort Lachaud, celui du Montbard, du Laumont et la batterie des Roches.
Ah ouais, quand même. Mais ça a dû prendre un temps fou pour construire tous ces forts.
Eh oui, et dans la région, il y en a même 21. En 4 ans, ils étaient tous sortis de terre, entre 1874 et 1870. Les moyens mis à disposition ont été importants, car la menace allemande était bien présente. Les Français de l'époque étaient profondément marqués par la défaite de 1870, voulaient se venger, qui s'est avérée être une véritable raclée. La réaction française a été de créer une sorte de barrière impénétrable. D'ailleurs, ces forts ont été intégrés à la ligne Maginot durant l'entre-deux-guerres.
Eh ben, la peur, ça motive les chantiers, visiblement.
Clairement. Allez, viens, on va continuer notre tour sur le site. On peut encore découvrir d'autres surprises, tu verras. Savais-tu que le fort n'a pas de nom officiel, alors que le général Boulanger avait prévu un nom pour chaque ouvrage ?
Non, je ne savais pas. Pas de nom officiel, c'est vraiment pas commun.
Effectivement, d'ailleurs ce fort est en forme de pentagone, entouré de fosses. Là, on est dans le casernement, et il y a deux bâtiments qui se font face, séparés par une cour qu'on appelle la rue.
On dirait une mini-ville en béton.
Et pendant la Première Guerre mondiale, ils ont recouvert la cour de rails et de béton pour se protéger des attaques aériennes et des obus.
Ils avaient déjà pensé aux avions à l'époque ?
Ouais, c'était hyper moderne pour l'époque.
C'est incroyable, je pensais pas que les constructeurs avaient pensé à faire ça.
Et attends, tu n'as pas vu les magasins ?
Les magasins ? Genre on pouvait aller faire nos courses directement ici.
Non, enfin presque. Les magasins c'était des entrepôts où les soldats stockaient les munitions ou autres. Il y en avait 5, 2 magasins à poudre, 2 à munitions et un magasin creusé en profondeur.
Waouh, je ne pensais pas qu'il y avait tout ça ici, juste au-dessus de Montbéliard. Et là c'est quoi ?
Ça, c'est les casemates. C'est des postes de tir pour éviter les invasions.
Franchement, je pensais pas que c'était aussi bien organisé. Et surtout qu'ils étaient aussi bien organisés. Je pense que les Allemands ont eu du mal à conquérir ce fort.
Ouais, c'est vrai. En 1878, ce fort était à la pointe de la technologie militaire. Et il était même difficile à repérer par le ciel, car ils avaient recouvert de plantes le plafond. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec les satellites.
Ah oui, la technologie. Du coup, ça m'intéresse encore plus, là. Viens, on avance, et je vois qu'il y a encore plein de choses là-bas.
Oui, tu n'es pas au bout de tes surprises. Allez, viens, je t'emmène dans un endroit un peu insolite. Je pense que tu ne t'attends pas à découvrir ce que je vais te montrer.
Arrête, tu en as déjà trop dit. Allez, go, on y va.
Allez, suis-moi, on va à la boulangerie maintenant.
Hein, là, maintenant ? Mais il faut qu'on reprenne les vélos et qu'on redescende la colline, et tu m'avais promis qu'on allait voir quelque chose d'inattendu, là.
Mais non, pas besoin de reprendre les vélos, il y a tout ce qu'il faut ici. Le fort dispose de sa propre boulangerie avec un four au bois ou au charbon toujours en activité.
Une boulangerie à l'intérieur même du fort ? Mais non, trop fort.
Et pour ça, on va aller en parler avec Mathis. Il travaille à PMA et s'occupe du fort du Montbard.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. Moi, c'est Mathis Defaux. Je suis le gardien du fort du Montbard. Donc, je suis à la fois l'agent d'accueil et l'agent d'animation. C'est moi le gardien des clés.
J'ai quand même une première question qui me vient à l'esprit. Elle est peut-être un peu bête, mais bon, pourquoi une boulangerie dans un fort militaire ?
Ah non, mais c'est une très bonne question. C'est sûr que c'est pas forcément évident. Eh bien, c'est parce que ce fort, les soldats devaient pouvoir rester en autonomie pendant très longtemps, vu que, voilà, en cas de siège, il fallait pouvoir se nourrir tout seul. Et il se trouve qu'à l'époque, le pain constituait une des... Enfin, c'était la base de l'alimentation, donc il fallait en faire beaucoup pour nourrir tout le monde.
Est-ce que vous avez une idée de la quantité de pain qui était produite par jour ?
Alors la quantité totale, je ne sais plus. Je sais qu'il fallait produire 620 grammes de pain par soldat tous les jours. Donc c'est équivalent de 3 baguettes. Et le fort était prévu pour accueillir jusqu'à 700 hommes. Il n'y en a jamais eu autant, mais c'était prévu pour ça. Donc le four est très très grand, du coup, comme vous l'imaginez.
Et à quoi ressemblait une journée normale pour un soldat ici ?
Alors, le fort ici, il a principalement servi pour des jeunes hommes qui venaient faire leur service militaire. Donc, leur journée ici, c'était de l'entraînement, principalement.
Et combien de temps le fort pouvait tenir si, en autonomie totale ?
Alors, dans l'idéal, normalement, il devait pouvoir tenir 6 mois. En étant totalement en autonomie en nourriture du coup, et aussi en eau, puisqu'on récupérait l'eau de pluie ici.
Ces infrastructures, elles étaient là dès le début du fort ou elles ont été rajoutées après ?
Non, le four à pain, il a été mis dès le départ. C'était prévu dès le départ pour être un fort qui puisse rester en autonomie.
Et aujourd'hui, est-ce que la boulangerie fonctionne encore ?
Alors oui, on l'allume 2 fois par an avec l'association du Montbard qui organise la fête du pain, souvent le premier ou le deuxième week-end de mai, et aussi aux journées du patrimoine en septembre.
Et aujourd'hui, est-ce que les habitants peuvent encore venir chercher du pain ici, ou même mieux, le fabriquer eux-mêmes ?
Alors le fabriquer, non, mais comme je vous disais, on l'allume 2 fois par an, c'est justement pour l'association vend du pain du coup du fort aux habitants qui peuvent venir le chercher. Et voilà, alors on l'allume pas tout le temps évidemment parce que le four étant très gros, il faut à peu près entre 2 et 3 jours pour le préchauffer.
Oui, quand même.
Oui, voilà.
Bon, Charlie, on ira chercher notre pain ici du coup.
On espère. Mais quel système de four, comment il fonctionne ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité pour les faire tourner.
Ah oui, c'est un four à bois. C'est un four Lespinasse. Voilà, il faut enfourner beaucoup, beaucoup de bois à l'intérieur. Ça chauffe pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Puis après, on pousse les braises sur le côté. Et c'est là qu'on peut enfourner du coup ensuite le pain.
Est-ce que les autres forts de la région ont aussi une boulangerie ou c'est une particularité du fort du Montbard ?
Non, tous les forts serrés de rivière étaient prévus pour être en autonomie, donc ils avaient tous leur four à pain. Alors, tous ne sont plus en état de marche. Hein. Dans la région, le fort du Montbard n'est pas le seul, puisque vous avez aussi à Héricourt le Mont-Vaudois, le fort du Mont-Vaudois qui possède son four encore en état de marche.
Bon Charlie, depuis tout à l'heure, tu me parles du fonctionnement du fort, de stratégie.
Ouais.
Mais... Y a-t-il eu des combats ici durant les deux guerres mondiales ? Qui a gagné ces combats ?
Ah bah tu fais bien d'en parler. Ce fort n'a jamais tiré sur un seul ennemi, quel qu'il soit.
Non, tu rigoles. Avec tout ce qui a été prévu, la boulangerie qu'on a tout à l'heure et tout, tout ça pour rien ?
En réalité, le fort a été construit parce que l'Alsace et la Lorraine ont été perdus en 1870, et la frontière avait donc bougé. Mais en 1914, les Allemands sont les premiers à attaquer. Et pour ça, ils passent par le nord de la France. Leur but était d'occuper Paris rapidement. Cependant, en arrivant vers Paris, les Allemands changent de stratégie et se détournent de la capitale pour contourner l'armée française. L'armée, située à Paris, lance une contre-offensive, les Allemands reculent et le front se stabilise dans le nord-est du pays. Donc le fort n'a pas été utilisé durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient sûrement au courant de cette ligne de défense et c'est pour ça qu'ils ont changé de stratégie.
Et pour la Deuxième Guerre mondiale du coup ?
Ah, pour la Deuxième Guerre mondiale, le fort était considéré dans la ligne Maginot. Mais les Allemands ont contourné cette ligne en traversant les Ardennes et ont repoussé les Français vers Dunkerque. En réalité, attaquer par les Ardennes était réputé infranchissable. Ça a été encore un coup de poker. La France capitule en 3 semaines et le fort n'est plus utilisé. Quand les Alliés récupèrent le territoire occupé, le fort n'est pas du tout sur la route de Berlin. Et les Alliés ne se concentrent pas sur ce territoire. En réalité, cette ligne de défense, et plus tard la ligne Maginot, a poussé les Allemands à revoir leur stratégie militaire.
Donc tous ces atouts, pour rien au final ?
Non, pas pour rien. Sa présence dissuadait l'ennemi et aujourd'hui il sert à faire vivre la mémoire du lieu.
Eh ben, de la guerre à l'escape game, sacrée reconversion.
Oh, t'es bête. Allez, viens, on va prendre nos vélos, tu rigoleras peut-être moins dans la descente.
Bon, franchement, Charlie, merci. Je pensais pas apprendre autant d'histoires en venant ici.
Tu sais, en vrai, moi non plus. Comme quoi, derrière une montagne bizarre, il y a parfois une vraie histoire. Il y a aussi une forme de morale, quand on sait que le fort n'a jamais eu à se défendre.
Oui, tu as raison. Mais surtout, c'est hyper sympa à venir visiter.
Ah ça oui, et puis on a une super belle vue.
Ouais, bon allez, c'est pas le tout, je t'attends en bas.
Oh tricheur, attends-moi, tu pars trop vite.
Allez !